Et donc voilà, donc bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième webinaire organisé sur l'orthotypographie. Donc je suis Marie-Salomon Lemoigne et je suis la représentante aujourd'hui du GT Formation du réseau Médici. Et donc on vous propose aujourd'hui un webinaire autour de l'orthotypographie en langue italienne et allemande. Donc le webinaire va s'organiser en trois temps, c'est-à-dire que il est sur un temps d'une heure normalement. Et donc il va y avoir une intervention sur la langue italienne, une deuxième intervention sur la langue allemande. Et ensuite il y aura un temps pour les questions. Donc les questions seront pour les deux interventions en fin de webinaire. Après les deux interventions, mais vous pourrez les poser au fur et à mesure dans le chat. Donc l'idée, ce n'est pas que vous repartiez avec une information exhaustive, mais que vous repartiez avec une boîte à outils qui vous permettra d'avoir des éléments de base. Et également, ça, c'est pour vous permettre de lancer la discussion. Et pour après, dans un second temps, pouvoir échanger avec les participants et les intervenantes qui ont accepté de venir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons deux personnes qui ont accepté d'intervenir sur ces sujets. Ariane Aventuri, qui
Bonjour.
est éditrice au Collège de France et qui s'occupe de deux revues. Donc, alors tu me corriges, Ariana, si je prononce mal. Turkica,
Tursika.
Turcica et
Oui.
le European Journal of Turkish Studies.
Oui.
Et Julie Barman, qui est éditrice à l'Institut historique allemand et qui s'occupe des Pariser historische Studien. Donc, merci à toutes les deux d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Vous allez entendre dans un premier temps Ariana. Et donc, si au cours de son intervention des questions viennent, n'hésitez pas surtout à les poser dans le chat pour ne pas les oublier. Et donc, elle y répondra à la fin de l'intervention. Donc, oui, Ariana, je te laisse la parole.
Ah, d'accord. Alors, vous avez, oui, ok. Donc, voilà, comme Marie a dit, je suis éditrice au CNRS pour des revues que sont turcs. C'est vrai qu'ils parlent surtout d'histoire turque et ottomane, mais voilà, je vais vous parler actuellement. Donc, je n'ai pas des pratiques éditoriales sur la typographie italienne, mais en tant qu'italienne, je vais présenter mes remarques et mes observations que j'ai eues en fait sur mon travail, dans mon travail en français. Donc, le premier aspect que je souhaite souligner, que la langue italienne est plus souple et moins codifiée que la langue française. Et en fait, cela modifie en effet la perception de la langue. Et j'ai développé ces points un peu à la fin dans ma conclusion. Et donc, j'ai organisé cette intervention en pensant soulever des points typographiques italiens qui diffèrent de l'usage français, en pensant également aux éditrices, aux éditeurs qui s'y retrouvent à vérifier l'orthotypographie sans forcément maîtriser la langue italienne. Donc, le premier point que je voulais soulever, qui c'était le plus fréquent en fait, c'est l'espacement et la ponctuation. En italien, comme en anglais, il n'y a pas d'espacement entre la ponctuation double. Et donc, voilà, c'est peut-être une particularité française et que rend voilà, l'écriture, en fait, les règles, ils sont, c'est comme la... sont comme le mot, l'espacement en fait anglais. Donc cette règle en fait on la retrouve aussi pour le guillemet. En italien en fait les guillemets les plus utilisés sont les guillemets doubles. Et ensuite, on peut retrouver en deuxième niveau les guillemets simples et les chevrons en dernier. Et après, pareil, ça dépend aussi des règles appliquées, mais selon les recherches que j'ai pu effectuer, j'ai vu que on tend à utiliser cette hiérarchie pour les guillemets. Donc, un autre point important à souligner, c'est l'usage de la majuscule. Les majuscules, la règle, c'est la même règle française. Donc, disons que la majuscule, elle a dans le premier lettre du titre. Mais c'est vrai qu'on peut trouver souvent, surtout dans des articles académiques, des recherches, une influence anglo-saxonne. Mais c'est vrai que c'est juste en habitude de lire en anglais, donc de reporter les mêmes règles, mais la règle italienne suit la règle française. Donc, j'ai reporté aussi d'autres cas pour la majuscule que je ne vais pas forcément m'attarder parce qu'ils sont un peu les mêmes normes qu'on trouve en français. Donc, pour les noms propres d'organismes, les noms géographiques et les noms de documents officiels. Pour passer aussi à l'utilisation des petites capitales. Les petites capitales elles sont employées pour tous les chiffres romains, les abréviations des points cardinaux et tous les sigles, en fait, sont utilisés pour, disons, dans certains, surtout dans des textes académiques, parce que c'est considéré plus élégant et s'uniforme mieux avec le texte. Non. Ah. Bon. Donc, les sigles, comme je disais, je voulais aussi parler des sigles que en français, on tend à traduire les noms de l'institution et à créer un sigle français autonome, alors que en italien, on garde généralement la sigle internationale. Et donc, il y a des petites différences. Alors, j'ai fait quelques exemples, mais c'est vrai que dans des textes, ça peut des fois un peu poser des. poser il faut, c'est une particularité qu'il faut connaître. Donc, par exemple, comme NATO, OTAN, EDNA, ADN. Et voilà. Donc, oui, il y a cette différence. Après. En ce qui concerne les minuscules, une grande différence entre le nom de peuple qui est en français, dans certains cas, c'est en majuscule, alors qu'en italien, est toujours en minuscule. J'ai aussi noté d'autres cas qui reprennent un peu les cas français. Comme ecclésiastique, académique, les grades, les qualifications, et donc les palais, les théâtres. Donc voilà, vous avez aussi ces exemples-là, mais en effet, qui reprendre des règles, qui suit un peu la règle française pour le minuscule. Je voulais passer aussi une autre particularité, c'est dans l'écriture de siècle. Donc, les siècles sont en petite capitale sans exposant, mais on peut trouver aussi 800, 800, donc écrit de cette manière haut en chiffres. Ou sinon, c'est beaucoup moins élégant, mais on peut trouver pour des textes journalistiques ou d'autres aussi la chiffre arabe avec un exposant. Donc, c'est vrai que le numéro, on écrit les nombres en exposant avec O, OA si féminin, en fait, comme un peu l'emploi français. Ici, un exemple comme Primo Maggio. Et Un autre changement que je peux voir, c'est par exemple dans le numéro civique. En français, on tend à mettre des numéros civiques avant les noms de la rue, alors qu'en italien, les numéros civiques et après les noms de la rue. Donc voilà. Un autre sujet que je voulais parler et que j'ai pu observer, c'est dans l'organisation plus générale de la mise en page et l'organisation du texte. Donc, par exemple, pour les alinéas et les paragraphes. En français, on met en alinéa chaque nouveau paragraphe, mais on ne laisse pas d'espace blanc entre les paragraphes, alors qu'en italien, oui, ça dépendra aussi de maquettes, mais souvent, en fait, l'utilisation de l'alinéa, ce n'est pas une norme obligatoire. On tend plutôt à passer d'un paragraphe à l'autre et laisser un peu plus de blanc sans créer de retrait obligatoire. Voilà. Et un autre cas, c'est aussi la césure. J'ai remarqué que dans les textes italiens, en fait, c'est moins rigide par rapport aux césures. Donc, les textes sont souvent divisés sans de restrictions. En fait, des fois, je vois aussi quatre césures consécutives dans les textes. Et donc, je me suis posé aussi la question, et en effet, c'est beaucoup plus toléré. Disons que la mise en page italienne réalise peut-être des textes qui sont plus compacts, alors que dans les mises en page françaises, il y a plus une volonté de aérer les textes et de le rendre même un peu plus esthétique. Donc, il y a ces différences que des fois on peut remarquer dans, disons, aussi l'organisation. Par rapport, je vous ai fait un petit tableau des abréviations que j'ai trouvées qui diffèrent du français, en fait. Une abréviation que c'est très important pour les bibliographies, et c'est la première, en fait, auteurs divers, parce que c'est vrai, c'est par exemple, c'est une abréviation qu'on trouve souvent, soit pour des auteurs même ou anonymes ou quand il y a plusieurs auteurs. Donc, c'est très souvent dans des bibliographies académiques, surtout, c'est très employé. Donc, on passe à les ouvrages que je vais vous conseiller. Disons, le livre vraiment le plus utilisé, c'est Il Nuovo Manuale di Stile de Zanichelli. Zanichelli, c'est en effet un
Pas
éditeur.
la même couverture, mais c'est le même.
Ah, quoi? Quoi?
J'étais pas complètement, tu vois.
Et voilà. Zanichelli, c'est un éditeur qui produit des dictionnaires et d'importants dans les domaines de l'enseignement et de la vulgarisation aussi. Il est très connu pour cela. L'autre lien que je vous partage, c'est un lien de vocabulaire en ligne, en fait. Et Treccani, c'est une éditeur qui est très connue en Italie pour les encyclopédies. En fait, c'est un éditeur historique plutôt connu pour cela, mais le vocabulaire en ligne, c'est très bien fait. Donc voilà, si je vous invite à aller si vous avez des mots à chercher. Donc, pour revenir à la partie dont je parlais au début, c'est intéressant, en fait, observer comme, en effet, la langue italienne et française, en effet, sont très similaires, mais il y a une différence aussi dans la conception de l'organisation de la langue, disons, dans la normativité, si on peut dire comme ça. La langue française est considérée plus une langue normative et la langue italienne est descriptive, dans le sens que le français est une langue normative parce que l'Académie française est une institution officielle qui régule et notifie les changements. Donc, elle a été fondée en 1635 et fixe des règles des grammaires et orthographes. Alors, l'italien, c'est un peu différent parce que c'est une langue descriptive et l'italien évolue selon l'usage réel des locuteurs. Donc, on a aussi un organisme qui notifie, c'est l'Accademia della Crusca, qui notifie ces changements et donne des références fiables. Donc, Crusca, pour la petite anecdote, c'est un mot très métaphorique parce que signifie des sons en italien. Et donc, c'est-à-dire la partie de la farine séparée lors du brouillage du blé. Et l'analogie est que l'Académie purifie la langue italienne comme on tamise les blés pour séparer la farine du son. Donc, l'Accademia della Crusca est fondée en 1583 à Florence. Et donc, pour défendre préfet l'italien, en particulier les Toscans, considérés comme modèle de la langue littéraire. Cette institution, actuellement, aujourd'hui, en fait, édite et met à jour le Dizionario della Lingua Italiana, qui reflète l'usage actuel et l'évolution des mots, observe la langue et documente son évolution. Donc, l'Accademia en ligne aussi publie des notes et recommandations sur l'orthographe et la grammaire et l'usage. Comme par exemple en France, le projet Voltaire. Donc, voilà, c'est un peu un. Je voulais conclure en fait avec cette petite différence. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et voilà, j'attends si vous avez des questions pour compléter. Voilà mon intervention. Merci beaucoup.
Beaucoup Ariana, et effectivement c'était très intéressant, surtout le parallèle avec la langue française qui nous a permis quand même de bien voir les différences. Donc maintenant je vais passer la parole à Julie qui va nous parler des normes orthotypographiques en langue allemande. Voilà, donc je ne sais pas Julie si tu es prête.
Voilà, normalement c'est bon, tout le monde m'entend? Ok, super. Alors, je me présente d'abord, je m'appelle Julie Barman, je suis éditrice à l'Institut historique allemand depuis novembre 2024. Avant ça, j'ai travaillé dans l'édition scolaire et notamment sur des manuels en allemand et en anglais. Je suis aujourd'hui responsable de la collection Pariser Historische Studien, qui publie des monographies en français, en allemand et plus rarement en anglais, qui portent sur l'histoire de l'Europe occidentale, de l'Antiquité tardive à nos jours. Donc, ce sont des monographies d'histoire. Donc, mes manuscrits sont principalement des thèses ou des travaux d'habilitation à diriger des recherches. Et donc, dans le cadre de ce travail, de ces publications, on demande à nos auteurs d'adapter leurs ouvrages aux règles typographiques en vigueur à l'IHA, qui peuvent différer des règles en usage dans d'autres maisons d'édition allemandes ou dans d'autres publications en allemand auxquelles vous pourriez être confronté dans le cadre de votre travail. Donc ici, je vais essayer d'être assez générale sur les spécificités de l'orthotypographie en langue allemande tout en vous présentant des règles qu'on utilise ici uniquement à l'IHA. Donc voilà, je vais commencer par parler de l'allemand standard, parce que quand on parle de l'allemand, de quoi on parle? L'allemand, c'est une langue officielle dans 6 pays, donc en Allemagne, en Autriche, en Suisse, au Liechtenstein, au Luxembourg, mais aussi en Belgique. Et donc, il y a plusieurs Allemands. Mais c'est l'allemand standard, c'est la langue allemande la plus répandue et donc celle qui est utilisée, qui est enseignée et utilisée dans les contextes formels, donc dans les médias, les institutions et également dans les publications scientifiques. Cependant, au sein de la langue allemande, il existe des variations entre régions, mais aussi entre pays. Et donc, ces différences, elles peuvent être de vocabulaire. Donc là, j'ai listé un exemple. Par exemple, dans le nord de l'Allemagne, petit pain se dit Brötchen, et en Bavière, on dirait Semmel. Donc ici, il n'y a aucun rapport entre ces deux mots. Et en Autriche, on emploie le mot Jänner pour désigner le mois de janvier et Januar en Allemagne. Il y a aussi des différences de prononciation sur lesquelles je vais pas m'étaler parce que ça concerne pas vraiment l'écrit. Je voulais juste parler, par exemple, de la Suisse où, donc, en Allemagne, il existe aussi un allemand standard suisse. Mais au quotidien, on parle le suisse allemand qui varie selon les cantons et qui peut être difficile à comprendre, voire impossible, pour un locuteur allemand. Voilà. Mais la langue écrite, elle, sera compréhensible par tous. Donc, à l'écrit, comme je le dis, ces différences sont moins frappantes qu'à l'oral et les variations grammaticales et syntaxiques sont peu nombreuses. Donc, l'allemand standard, c'est la version unifiée de la langue écrite qui respecte les règles grammaticales et orthographiques qui ont été définies par l'orthographe officielle, qui a été révisée en 1996 et en 2006. Et dans l'édition, malheureusement, il n'existe pas de guide pratique comme on a en France avec le lexique des règles typographiques et c'est le dictionnaire qui fait foi. Donc, le Duden que je vais vous présenter plusieurs fois et que je vais évoquer plusieurs fois, donc je vous le montre ici, voilà. Ça a longtemps été l'ouvrage de référence pour l'orthographe allemande et aujourd'hui encore, il fait figure d'autorité, même si on lui reproche parfois d'avoir participé au mouvement de simplification de la langue allemande. La réforme concernait des domaines comme les césures, comme la graphie de certains mots, où le PH devenait F, mais les deux sont aujourd'hui acceptés. Ça concerne aussi la ponctuation, l'utilisation de la virgule, la capitalisation des noms. Et donc, il faut vraiment penser avoir en tête que le dictionnaire, c'est l'outil des éditeurs et qui va nous donner toutes les informations dont on va avoir besoin pour éditer nos textes et travailler dessus. Voilà. Donc, je vais passer à quelques spécificités de la langue allemande. Donc, en commençant par les lettres accentuées, en allemand, il y a trois lettres accentuées, donc le A, le U et le O. Vous voyez que c'est un tréma qui sert à changer le timbre d'une voyelle. Donc le A avec umlaut se prononce E comme dans Märchen, tandis que le verbe machen où il n'y a pas d'umlaut se dira machen. Le U, donc on dirait das Büro, donc le U se prononcerait comme en français, tandis que quand il n'y a pas d'umlaut c'est der Bus, donc le U se prononce U. Et pour le O c'est mögen. Et sans le umlaut, ce serait der Morgen. Voilà. Donc, ces umlauts apparaissent parfois sous la forme AE, OE et UE, par exemple lorsque le mot est composé tout en majuscules ou dans les adresses mail. Voilà. Cependant, ce sont de véritables lettres qui sont présentes sur le clavier QWERTZ allemand, de même que l'ESZ, qui est donc une lettre qui est uniquement utilisée dans la langue allemande. Donc, le SZ, c'est un double S. On utilise le double S après une voyelle courte, comme dans Fluss, ou l'SZ après une voyelle longue, comme dans le mot Spaß. Voilà, mais cette lettre a été complètement supprimée en Suisse et au Liechtenstein, et déjà dans la première moitié du XXe siècle. Donc, là aussi, on peut voir des différences entre les pays germanophones. Je vais passer maintenant à une des grandes différences. Ce qui différencie vraiment l'allemand, c'est que en allemand, tous les noms communs ont une majuscule. Donc, ça simplifie quand même le travail et la réflexion par rapport au français, parce qu'on sait que quand on voit un mot avec une majuscule, ce sera forcément un nom. Voilà. Donc, même pour les titres. Les titres d'œuvres, voilà, on se pose beaucoup moins de questions qu'en français. Je voulais aussi vous parler des mots composés parce que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Donc, les mots composés, ce sont des mots composés de plusieurs mots et c'est assez courant en allemand. Ça peut assez étonner parce que ça peut créer des mots assez longs. Donc là, je vous ai donné un exemple avec Der Buchladen qui est construit à partir du mot Buch, livre, et Laden, magasin, qui devient la librairie. Et si on ajoute le mot Kinder, donc Kinderbuchladen, Kinder plus Buch plus Laden, ça donnera la librairie pour enfants. Voilà. Donc en français, on aura de toute façon plusieurs mots pour un seul mot en allemand. Et donc une autre grande différence de la langue allemande, c'est qu'on a des déclinaisons. Donc les articles, les noms et les adjectifs se déclinent en allemand. C'est aussi le cas des pronoms, des déterminants. Ils prennent des formes différentes et des terminaisons différentes en fonction des cas. Et donc ces cas, ça peut nous rappeler donc le latin. Donc on a le nominatif, l'accusatif, le datif et le génitif. Et donc ces terminaisons seront différentes selon qu'on est au singulier ou au pluriel. Et en allemand, pour ajouter une difficulté, on a aussi trois genres, le masculin, le féminin et le neutre. Donc là, je vous ai mis un exemple qui ne va pas forcément être parlant. C'était surtout pour vous montrer que selon le cas, on aura différentes formes du mot. Donc au nominatif et à l'accusatif, ce sera das rote Buch. Mais si on utilise un article indéfini, ce sera ein rotes Buch. Et on voit ici que c'est l'adjectif rotes, qui veut dire rouge, qui porte la marque du neutre, qui était avant dans das. Voilà. Au pluriel, donc nominatif et accusatif, ça devient die roten Bücher. Donc on voit que le U est devenu U avec umlaut. Et au datif, singulier, dem roten Buch. Et au génitif, des roten Buchs. Voilà, donc ça crée des difficultés. Ça peut créer des difficultés, notamment dans un texte en français. On aurait tendance à ne pas décliner pour éviter des difficultés ou des erreurs. Et pour l'utilisation de termes en allemand dans un texte, on aurait tendance aussi à conserver le genre de la langue d'origine. Là, j'ai pensé au mot Zeitgeist, mais qui est c'est le même genre en français, par exemple l'esprit du temps, mais à appliquer cette règle dans des textes français qui utilisent des concepts en allemand. Donc, je vais passer à la ponctuation en allemand, donc qui est assez semblable à la ponctuation en anglais. Il n'y a pas d'espace entre le mot et le signe de ponctuation double. Donc, les deux points, le point virgule, les points d'interrogation et d'exclamation, ils sont tous collés au mot qui les précède. Et s'il s'agit d'une phrase contenant un verbe conjugué, on met une majuscule au mot qui suit les deux points, mais pas après un point virgule. En revanche, autre particularité, les points de suspension sont précédés d'une espace. Donc là, vous pouvez voir, es war einmal, espace, point de suspension, et pas en français. La virgule, là, je ne vais pas trop développer parce que son utilisation suit des règles très précises, car elle fait partie intégrante de la structure grammaticale de la phrase. Donc je vous ai trouvé un lien qui récapitule ces usages, et je pense que de toute façon, c'est pas le sujet ici, c'est l'idée, c'est de savoir que c'est très important et qu'une virgule peut changer le. Voilà. Certains mots appellent la virgule obligatoire. Je voulais aussi parler du trait de complément, qui est quelque chose qui existe en allemand. Ça s'appelle le Ergänzungsstrich. Et c'est une particularité de l'allemand et qui permet d'indiquer, alors c'est pas très clair comme ça, mais les exemples seront plus parlants, donc ça permet d'indiquer l'omission de parties de mots dans des groupes de mots qui contiennent un élément identique. Donc c'est un trait d'union qui est suivi d'une espace avant le mot qui suit, et ce mot c'est souvent und ou bis, donc et ou jusqu'à. Donc là je vous ai mis l'exemple de ein und Ausgang. Donc là, au lieu de dire Eingang und Ausgang, donc le gang qui est répété deux fois, on dira Eint und Ausgang. Ou pour deux à trois fois, on dirait zwei bis dreimal au lieu de dire zweimal bis dreimal. Voilà. Et donc pour d'autres signes, on met une espace avant le signe pourcent et avant et après le tiret demi-quadratin. On va passer maintenant aux guillemets. Donc les guillemets allemands sont les plus couramment utilisés. Moi, c'est ceux que j'utilisais par exemple quand je travaillais dans l'édition scolaire. Donc on retrouve la forme simple pour une citation dans la citation ou par exemple dans un texte allemand pour souligner un mot, le mettre en relief. Cependant, les guillemets double chevron sont de plus en plus répandus, notamment dans les publications scientifiques. Moi, c'est ici que j'ai découvert l'utilisation de ces guillemets. Avant ça, je ne les avais jamais utilisés. Et donc, ils sont utilisés à l'inverse du français, donc comme vous pouvez voir sur l'exemple, et dans leur forme simple également. Mais quel que soit le type de guillemets utilisés, ils sont collés à la citation, comme en anglais, et la ponctuation finale est placée à l'intérieur de la citation. C'est une recommandation du Duden, mais ce n'est pas forcément nous les règles qu'on suit ici à l'Institut. Donc, c'est pour ça que je vous dis que cette règle n'est pas toujours suivie. Passons maintenant aux nombres. J'ai listé quelques exemples. Donc, les nombres sont généralement écrits en toutes lettres jusqu'à 10, parfois jusqu'à 12. C'est le cas, c'est ce qu'on fait en tout cas, par exemple, ici, au PAS. Ensuite, ils s'écrivent sans espace jusqu'à 9999, à part en Autriche. Donc, j'ai demandé à ma collègue autrichienne, et elle m'a dit que ce n'était pas le cas en Autriche. Donc, il peut y avoir des particularités selon le pays, et donc avec une espace à partir de 10 000, on utilise la virgule comme séparateur décimal, donc ici 10,5%, 10,5%. Les siècles s'écrivent en chiffres arabes, donc ce qui est une différence avec le français, et ils sont suivis d'un point qui est l'indicateur des nombres ordinaux en allemand. Donc, ce point, vous le retrouvez par exemple donc dans les siècles. Donc, ici, on a au XXe siècle, im 20. Jahrhundert, mais aussi pour, par exemple, dans une référence bibliographique, pour dire le premier volume, ce sera un point, donc Erster Band, ou pour la huitième édition, Arte Auflage, la huitième édition. Pour écrire une date en toutes lettres, il ne faut surtout pas oublier la virgule et le point, donc des nombres ordinaux. Et en chiffres, on sépare le jour, le mois et l'année avec un point. Donc pour les références bibliographiques, ici c'était aussi compliqué de trouver des règles générales. Donc ce que j'ai trouvé, moi, c'est que les références bibliographiques suivent souvent les styles APA ou Chicago, mais elles peuvent aussi respecter des règles spécifiques à la revue ou à l'éditeur. Et c'est le cas ici. Nous, au sein de l'IHA, on a nos propres règles et on demande à nos auteurs d'appliquer ces règles. Donc, je vous les ai listées ci-dessous. On peut noter notamment que les noms de villes sont écrits dans la langue du manuscrit. Donc, ici, dans un manuscrit en allemand, j'écrirai Wien et München pour Vienne et Munich. Voilà, mais dans un manuscrit en français, j'écrirai bien sûr Vienne et Munich. Les appels de notes, eux, sont généralement placés après le signe de ponctuation. Et contrairement aux usages français, vous verrez que, voyez, les maisons d'édition ne sont pas mentionnées. C'est la ville de la maison d'édition qui est mentionnée. J'ai surligné ici en jaune des abréviations que vous pouvez trouver dans des indications bibliographiques allemandes, donc le S. Le HG et le UA. Et donc, je vous ai fait un petit tableau récapitulant ces abréviations. Donc, le HG, point, donc toutes les abréviations sont suivies d'un point. Ça peut renvoyer en allemand à la fois à l'éditeur ou au directeur d'ouvrage. Donc, il n'y a pas de différence. Ici, pour les abréviations, il faut surtout faire attention aux majuscules. Pour les noms communs, il y aura toujours une majuscule, tandis qu'il n'y en aura pas pour les autres mots. Donc voilà, comme vous aurez la présentation, vous aurez ces abréviations aussi, si besoin, et avec leur traduction. Et enfin, je voulais faire un dernier point sur l'écriture inclusive. Il y a différentes formes qui existent en Allemagne, mais il n'existe pas de règlement officiel, de réglementation officielle. Donc, vous allez pouvoir rencontrer ces différentes formes dans des textes sur lesquels vous allez travailler. Donc, il y a le Binnen-I, qui est une majuscule à l'intérieur du mot. Donc, ici, dans le mot Redakteurinnen, vous avez ce I majuscule vraiment au milieu du mot. On peut aussi utiliser les deux points, donc on appelle le gender doppelpunkt, donc le redakteurin. Vous voyez les deux points au milieu du mot. On peut aussi utiliser l'astérisque de genre, gender stern, avec cet astérisque également au milieu du mot. On peut aussi utiliser des expressions neutres en genre qui sont assez nombreuses en allemand. Par exemple, un mot qui n'existerait pas en français dit Studierende pour dire les étudiantes et les étudiants ou ceux qui étudient, ou dit Leserschaft pour le lectorat, la communauté de lecteurs. Voilà. Je vous ai mis un article de 2021 qui propose donc une étude comparée sur le langage inclusif en France, en français et en allemand, parce que c'est assez intéressant de voir comment est traité ce sujet. Et je voulais encore ajouter que des recommandations existent au sein de la revue ou de l'éditeur. Donc nous, ici, on aura tendance à préférer les deux points. Mais ces recommandations, elles se confrontent également aux exigences d'accessibilité. Et il y a une loi qui est passée l'année dernière sur le renforcement de l'accessibilité qui demande de rendre accessibles les contenus et donc aussi les contenus qu'on publie et qu'on publie en ligne. Et donc, certains signes sont plus difficilement utilisables et ne vont pas être connus de la même manière par certains lecteurs ou des solutions de synthèse vocale. Voilà. Et pour finir, je vous ai mis quelques outils. Donc, d'abord, dans le lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale, page 18-20, il y a des informations sur la composition de l'allemand. Et j'ai également trouvé un ouvrage en allemand sur les règles typographiques allemandes qui se présente comme l'ouvrage de référence. Cependant, moi, je n'en ai jamais entendu parler et j'ai demandé à des collègues allemandes éditrices. Bon, elles travaillent en France, donc peut-être que ce n'est pas tellement connu. Je n'ai pas d'expérience avec des éditeurs ou des éditrices en Allemagne. En tout cas, il existe ce livre qui a l'air assez épais et assez reconnu. Voilà, mais moi j'aurais tendance à vous recommander mon outil indispensable qui est le dictionnaire. Et enfin, j'ai mis quelques informations sur l'Est-7 et sur la réforme de l'orthographe allemande de 1996. Pour ceux qui veulent en apprendre plus ou aller un peu plus loin sur ces particularités de la langue allemande. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions.
Beaucoup lu. Donc effectivement, on va passer aux questions. Donc il y a déjà des questions qui sont arrivées pour l'italien. Donc on va commencer par ces questions-là. Donc Ariana, des personnes ont remarqué dans ton PowerPoint que tu avais utilisé les apostrophes droits pour dans ta présentation. Et du coup, la question c'était est-ce qu'on conserve les apostrophes droites en italien?
Non, disons pour les textes voilà, de plus élégants et écrits en imprimé, en fait, oui, peut-être c'est un usage plus pour les tests en ligne. En fait, j'ai remarqué que c'est très utilisé, peut-être voilà, juste facilité. Mais c'est vrai que sur les livres imprimés sont toujours des apostrophes courbes. Donc voilà. C'est
D'accord.
juste, voilà, j'étais un peu
C'est comme en français, quoi.
oui. Donc j'ai accepté, j'ai pas changé dans mon support, mais voilà.
D'accord. C'est juste une question de logiciel, quoi.
Oui.
Très bien. Et il y a des personnes qui demandaient aussi si c'était possible de rappeler la règle sur la hiérarchie des guillemets.
Oui, alors. En effet, j'ai pas comment dire, je suis allée un peu vite parce que j'ai cherché plusieurs, j'ai lu plusieurs manuels à part celle du de même différentes maisons d'édition pour voir un peu les différences. Et il y a des règles notées, mais ils sont pas forcément les mêmes. Disons que pour dans les bibliographies, c'est sûr, on utilise des guillemets doubles. Après, dans la hiérarchie, ça dépend aussi dans, disons, les chartes graphiques. Donc, ça change vraiment. C'est pas, comment dire, c'est pas très rigide. Mais en effet, j'ai vu que la hiérarchie, c'est les guillemets doubles, les guillemets simples et les chevrons. Les chevrons, ils sont utilisés beaucoup pour les dialogues, par exemple, mais pour les citations. Oui, on tendra à utiliser plutôt des guillemets doubles. Voilà.
D'accord, merci. Et n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions supplémentaires. Et il y a une personne aussi qui demandait s'il y avait des spécificités pour l'italien du Tessin. Je ne sais
Oui,
pas si tu as des informations. Hein.
ben, non, je connais pas forcément dans le sens que il y a un italien standard, mais après, c'est vrai que l'italien parlé, surtout déjà des régions d'Italie, c'est assez différent, et surtout aussi c'est de la Suisse, c'est encore autre chose. Il y a quelques âges, mais peut-être ça reste surtout dans le langage qui est différent. Mais on tend à essayer de uniformiser la langue italienne. Mais c'est vrai que je connais assez peu les usages dans la Suisse et dans d'autres pays que peut-être italophones. Voilà. Voilà, oui, je ne connais pas.
Merci. Et Julie, j'avais une question. Est-ce que tu pourrais réexpliquer où se placent les appels de notes dans les textes?
Oui, alors normalement c'est après le signe de ponctuation. Nous, par exemple, dans les PS, c'était avant. Et nos nouvelles règles, on va essayer de voilà, harmoniser avec ce que font les autres. On va le placer après le signe de ponctuation.
Très bien. Et une personne demandait si tu pouvais dire quelques mots sur l'usage du tiret long. C'était, il y avait un exemple sur S point et après 23-25.
C'est
C'est la
pour
personne qui a
l'allemand.
posé.
C'est pour l'allemand plutôt peut-être, non?
Oui,
Oui.
Mais du coup, alors, c'est Syrah qui a posé la question si la personne peut la préciser par oral.
Ah, je peux peut-être aller voir dans le
Et la
chat.
personne n'a pas de micro.
Ok.
oui, c'était Von Bistrich.
Ah oui, alors on utilise nous ce tiret long pour les numéros de page, aussi pour indiquer par exemple sur nos couvertures pour dire de 1789 à 1815, on utiliserait ce long tiret, voilà, et pas le trait d'union.
D'accord,
Voilà.
très bien. Et pas entre des mots, par exemple, ou entre des.
Non,
C'est
pas
vraiment
entre... ouais,
que
alors
pour les
ça amène
chiffres.
à des confusions quand nos auteurs changent ces tirets. Ils ont tendance à changer tous les tirets, donc on se retrouve avec des tirets longs au lieu de traits d'union. Mais non, on garde le trait d'union.
D'accord. Voilà, donc je ne sais pas si d'autres personnes avaient des questions. Donc, après, c'était très clair, vos interventions. Donc,
Excusez-moi, oui, j'ai une
oui.
question, c'est Fabienne Holland, sur les guillemets, alors en italien et en allemand, par rapport à la ponctuation. J'ai pas bien compris, merci. Alors, en allemand, la ponctuation se trouve à l'intérieur des citations. Comme j'avais montré sur un exemple, mais j'ai pas trop développé, ouais. Donc, la ponctuation finale à l'intérieur, mais nous, dans ma collection, c'est pas encore ce qu'on fait. Voilà. Donc, les règles sont pas aussi strictes, j'ai l'impression, qu'en français.
Et en italien, Ariana?
Même en italien, j'étais en train de réfléchir. Je pense que ça dépend un peu du contexte. Ben, c'est la citation intégrée en phrase ou si la citation est terminée ou pas. Donc, je vais peut-être vérifier et compléter. Je dirais, en termes généraux, externe à la ponctuation. Mais voilà, après, ça dépend toujours du contexte, voilà, de la citation même. Et voilà, je dois vérifier pour être sûre. Ouais. Mais oui, je les note, donc ça reste un point en suspens.
Merci,
C'est
merci.
rien.
Et il y avait une autre question pour l'italien, ben c'est aussi sur les traits d'union et les tirets, savoir si il y avait un usage des tirets à la place des traits d'union qu'on utilise en français.
Des tirets, alors pour des mots composés, c'est assez rare. Oui, là je n'ai pas des exemples parce que ce n'est pas très courant, mais il peut avoir le tiret, ils suivent la même règle, ils sont des tirets d'imicadratin. Et après, il y a deux tirets longs peut-être pour s'il y a des conversations, des dialogues, des choses plutôt s'utiliser pour ça. Je ne sais pas, on a dans la tête une utilisation différente pour d'autres tirets. Voilà.
Merci. Et Julie, du coup, par rapport toujours au tiret et au trait
Ouais.
d'union, quelles sont les utilisations du trait d'union en allemand
Oui, surtout dans le cas où on a des mots composés qui sont entièrement collés. Alors, j'avais commencé à ajouter ça dans ma présentation et en fait, comme c'est assez complexe, je l'ai enlevé, mais je peux rajouter un passage et en me remettre un peu. Mettre des informations là-dessus. Parce que c'est difficile à expliquer comme ça les différents cas, mais il y a toute une partie dans le dictionnaire qui liste les contextes d'utilisation du tiret plutôt que la création d'un mot.
Composé.
Ouais.
Très bien, bah merci beaucoup. D'autres personnes ont quelque chose à...
Question. Concernant les bibliographies, en allemand comme en italien, est-ce que quand des noms propres sont répétés, des noms d'auteurs, est-ce que le quadratin est mis à la place de la répétition du nom de l'auteur ou pas,
Oui,
s'il vous
en
plaît?
allemand, oui.
Oui, même en italien.
Merci. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des questions qui étaient dans le chat. Est-ce que d'autres personnes ont des questions à poser directement?
Bonjour. Oui, j'ai une question. Merci pour les présentations. J'aurais une question sur l'italien et les formes inclusives en italien.
Oui, alors j'avais commencé à réfléchir pour écrire quelque chose. Peut-être je vais le rajouter sur le slide. Je n'ai pas parlé parce que c'est un peu comme en allemand. En fait, alors, les possibilités, c'est les mêmes qu'en français, mais c'est pas réglementé dans le sens que c'est une utilisation qui reste. C'est pas obligatoire. On conseille d'essayer de trouver des mots qui peuvent inclure tous les genres. Donc peut-être je vais faire une liste, je vais réfléchir pour avoir une liste de ces types de mots pour vous conseiller. Et on évite en fait d'écritures plus lourdes comme les points médiums ou parce qu'en fait en plus ils sont pas accessibles, donc ils sont plus compliqués. Il y avait eu aussi une proposition d'une nouvelle lettre qui appelait Schwa, que c'était une lettre, disons, non binaire aussi, parce que dans le langage inclusif, il y a aussi la question du binarité. Donc, mais ça reste toujours des usages plus politiques. Donc, voilà, c'était un peu spécial comme c'est pas très courant. Et voilà, donc c'est vraiment un débat qui reste, je pense, le conseil qui est le plus donné, c'est de trouver des moyens de moins alourdir la langue et d'utiliser des mots au lieu de dire plutôt les personnes, au lieu que les hommes et les femmes. Voilà, il y a des cas comme ça. Mais je vais chercher des formulations qui peuvent être utiles pour le langage inclusif. Voilà.
Et du coup, Ariana, il y a une autre question par rapport aux appels de notes en italien,
Oui.
savoir où ils se placent.
Alors non, alors il se place à côté de la citation, sans espacement, oui.
Donc après la ponctuation.
Oui, ça c'est une vraie question. Est-ce que ça dépend de... Alors, oui, ça dépend si la citation termine avec un point ou pas, et voilà, si inclus. Mais moi, je dirais plus collé au mot qu'après le point, en fait.
D'accord.
Voilà. Mais même ça, je vais appeler.
Et une question pour toutes les deux, sur les numéros de notes de bas de page, sous quelle forme ils sont présentés? Est-ce que c'est plutôt comme en français ou comme en anglais?
Parce que le numéro de bas de page en anglais, comment on
Ouais,
dit?
c'est...
Oui, voilà, c'était pour ça. Moi, je dirais comme en français parce que ça suit. Parce que, mais je ne sais pas dans quelle manière sont présentés en anglais.
Oui, je... Ce sont les appels de notes ou les...
Les numéros des notes de bas de page, c'est ça.
Oui. Je ne sais pas si
Alors,
Benjamin qui a posé la question peut
je peux
nous...
dire qu'il n'y a pas de différence en italien. Les numéros de bas de page, ils sont comme en français. Voilà, dans le sens que
Ils sont
ils ont
en
des
exposant
chiffres, oui, en
aussi.
exposant des chiffres romains, arabes. Voilà,
En fait,
c'est le même critère. Oui.
ce que je voulais dire, c'est en bas de la page, parce que généralement dans les ouvrages en anglais, il reste en exposant, et puis après, il y a la phrase qui suit en français, même si l'appel est en exposant, et il n'est pas en exposant, il est suivi souvent d'un point, puis d'un espace.
Ah, quand c'est en fait en bas de la page aussi, il reste en exposant. Ah oui, c'est vrai, en effet. Non, il devient un numéro et après, oui, c'est numéro, point, ou selon les mises en page, mais normalement, c'est en bas de la page, ça reste numéro, point, et la citation. C'est vrai qu'après, c'est plus un exposant.
Tout comme en français, donc.
Oui.
Ouais, et pareil en allemand. Non.
Je ne l'avais pas
Merci.
remarqué en anglais.
Merci. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. Non, a priori, on a dû faire le tour. Donc, s'il n'y a plus de questions, on peut s'arrêter là. Merci à toutes les deux d'avoir joué le jeu, d'avoir fait vos présentations et répondu aux questions au pied levé sur des sujets qui ne sont pas faciles. Donc, je vous rappelle que le webinaire a été enregistré, que du coup, il sera disponible sur la chaîne Canal U du réseau Médici. Il y aura une information qui sera envoyée via la liste. Et donc, que Ariana et Julie nous transmettront leur PowerPoint pour qu'on puisse avoir par la suite toutes ces informations, donc avec les éléments qu'elles ont proposé d'ajouter pour suite aux questions. Donc voilà, vous avez tous et beaucoup de remerciements dans le chat. Effectivement, merci beaucoup pour tout ça. Et
Merci.
donc pour la suite, ben, je ne sais pas si d'autres webinaires seront proposés sur le sujet de l'orthotypographie, mais n'hésitez pas à répondre au questionnaire qui est envoyé en début d'année si vous avez des besoins et pour nous faire savoir ce sur quoi vous souhaitez des interventions.